Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Le président argentin a promis des solutions extraordinaires contre l'inflation. L'Argentine ramène les prix de la farine et des produits de boulangerie en février. Le gouvernement argentin a conclu un accord sur la dette avec le Club de Paris. L'ambassadeur de l'Union européenne a souligné l'engagement de l'Argentine en matière de changement climatique. Exploitation du lithium dans le nord du pays. Des températures jusqu'à 40 degrés supérieures au normal ont été enregistrées sur le continent blanc. Le suspect du meurtre d'un joueur de rugby argentin à Paris a été arrêté en Hongrie. Le gouvernement chilien annonce des changements radicaux au sein des Carabineros. Le président Alberto Fernández a qualifié d'historique le fait que le Congrès ait approuvé, par voie législative, un refinancement auprès du Fonds monétaire international, soulignant qu'il était sanctionné par le consensus des législateurs de différentes forces politiques. Il a également évoqué l'inflation élevée dans le pays et a souligné que sa résolution exige que nous fassions le bilan de notre expérience, que nous comprenions sa complexité et que nous trouvions une issue dans laquelle nous pouvons tous nous engager. Dans ce contexte, le gouvernement prétend faire baisser les prix des denrées alimentaires, notamment ceux qui ont augmenté jusqu'à 20% au cours des deux dernières semaines, entre autres avec une soixantaine d'articles de grande consommation à des prix abordables dans les petits magasins. Les grandes surfaces seront tenues de réduire les prix qui ont augmenté de manière excessive. Le ministre argentin du Développement productif, Matías Culfas, a affirmé que le fonds fiduciaire destiné à subventionner le prix de la farine de blé permettra de ramener les prix des nouilles, du pain et de la farine aux valeurs de février. Cette mesure fait suite à la hausse internationale des prix du blé à partir de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le fonds fiduciaire sera financé par l'augmentation de 2 points de pourcentage des retenues qui sont appliquées sur les exportations de farine et d'huile de soja. L'Argentine a conclu un nouvel accord avec le Club de Paris concernant sa dette envers le groupe de nations créancières. Le ministre de l'économie, Martin Guzmán, a scellé l'accord dans la capitale française avec le responsable du club, Emmanuel Moulin. Fondamentalement, ils ont accepté de prolonger un accord antérieur sur les engagements financiers à remplir par Buenos Aires. Pendant ce temps, le président Alberto Fernández s'est entretenu avec Kristalina Georgieva, directrice du Fonds monétaire international, qui lui a assuré que le conseil d'administration du FMI approuvera ce vendredi l'accord avec l'Argentine pour le refinancement de 44 milliards de dollars. La semaine dernière, le Congrès argentin a adopté l'accord en tant que loi. L'ambassadeur de l'Union européenne en Argentine, Amador Sánchez Rico, a souligné le grand engagement de l'Argentine et des chefs de municipalités face à un problème aussi grave que le changement climatique. Il a appelé à renforcer les liens entre l'Union européenne et l'Argentine lors de la 4e Assemblée nationale des maires sur le changement climatique qui s'est tenue la semaine dernière à Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires. Le diplomate a exprimé sa gratitude pour l'engagement de l'Argentine sur une question grave et a exhorté à ne pas retarder son attention, considérant qu'il n'y a pas de vaccin pour ça et que nous devons donc tous assumer nos responsabilités, faisant une analogie avec la pandémie de coronavirus. L'exploitation de lithium commence dans le nord du pays. Le gouverneur de la province septentrionale de Catamarca, Raúl Jalil, et Shaoyang Shen, vice-président de la société chinoise Jinjing Mining, ont lancé le nouveau projet de lithium Tres Quebradas, qui représente un investissement de 380 millions de dollars et produira 20 000 tonnes de carbonate de lithium par an, selon des sources officielles. Le projet Tres Quebradas vise à exploiter pleinement les ressources lithifères des salines de Laguna Verde au moyen de différentes techniques de capture et de purification de la matière première. Des températures jusqu'à 40 degrés supérieures au normal de saison ont été enregistrées la semaine dernière sur le continent blanc. Coup de chaud sur la région la plus froide au monde. En fin de semaine, l'est de l'Antarctique a connu un épisode de chaleur sans précédent qui a choqué la communauté scientifique avec des températures jusqu'à 40 degrés supérieures au normal de saison dans une zone connue pour être des plus inhospitalières. Il faut s'imaginer un instant l'intérieur du continent blanc battu par des vents glacés à plus de 3000 mètres d'altitude, où les températures oscillent entre moins 50 et moins 55 degrés à cette période de l'année. Le 18 mars, ils ont atteint moins 11,5 degrés sur la base scientifique franco-italienne Concordia et moins 17,7 degrés sur la base russe Vostok. De quoi battre très largement, de 15 degrés, les précédents records pour le mois de mars. Mais il s'agit également du maximum jamais enregistré, toutes saisons confondues, à Concordia. Sur le littoral, où le climat est plus doux, le thermomètre a grimpé jusqu'à 4,8 degrés sur la base française de Dumont-d'Urville et 5,6 à la station australienne Casey, un record également pour le mois de mars. Le suspect du meurtre de l'ex-rugbyman argentin Federico Aramburu à Paris a été arrêté en Hongrie, selon des sources liées à l'enquête. Le détenu a été identifié comme étant Loïc Le Priol, 27 ans, ancien officier militaire et membre d'un mouvement d'extrême droite. Il est accusé d'avoir tiré sur Aramburu samedi dernier dans la capitale française après une dispute avec l'Argentin. Le gouvernement chilien a réaffirmé sa décision de promouvoir des changements profonds et structurels au sein des Carabineros, la force de police locale. Cette décision fait suite aux critiques formulées à l'encontre des nouvelles mesures de répression prises par ses agents et aux informations selon lesquelles la police aurait écouté les conversations d'un dirigeant Mapuche qui a ensuite été assassiné. Il s'agit d'un changement fondamental et structurel car nous voulons une meilleure police pour notre pays, plus efficace et respectant sans restriction les droits de l'homme, a expliqué Camila Vallejo, porte-parole du gouvernement. Vallejo a dit aussi que le ministère de l'Intérieur analyse déjà certaines mesures à adopter à court terme, parmi lesquelles l'interdiction de l'utilisation de balles, tandis qu'elle travaille à modifier les protocoles pour permettre et protéger le droit de manifester.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
À 46 ans de la dictature qui ensanglantait l'Argentine à partir du 24 mars 1976 et dont les cicatrices sont toujours ouvertes avec les 30 000 disparus, voici un reportage de France 24 sur les quelques 500 bébés volés à leurs parents séquestrés, puis assassinés ou nés en captivité, avec des témoignages de ceux qui, au fil des ans, ont récupéré leur identité et leur famille.
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Comment vit-on lorsque l'on découvre à l'âge adulte que son identité, son nom, son prénom, sa date de naissance ne sont que mensonges? Comment surmonte-t-on le choc lorsque l'on apprend que sa famille n'est pas sa vraie famille, que ses parents biologiques sont morts, tués par la dictature et que ceux qui vous ont élevé ne sont en fait que des parents d'appropriation? Ces questions existentielles, ils sont des centaines à se les poser en Argentine. Pendant la période noire de la dictature entre 76 et 83, près de 500 bébés ont été arrachés à leurs parents, des militants de gauche arrêtés, emprisonnés, torturés et souvent exécutés par le régime. Orphelins, ces bébés ont ensuite été confiés à de nouvelles familles d'adoption sous un nouveau nom, une nouvelle identité. Près de 40 ans plus tard, ils sont une centaine d'adultes à avoir retrouvé la trace de leur histoire tragique, Mais que faire du passé, s'interroge l'un d'eux dans ce reportage que nous vous proposons maintenant. Des témoignages très émouvants d'hommes et de femmes à la quête de leur passé, de leur histoire, de leurs racines. Argentine, Identité volée, c'est un document de Bertrand Dévé pour France 24.
Entre 1976 et 1983, pendant la dictature argentine, 500 bébés ont été volés à leurs parents opposants au régime. À l'époque, c'est le général Videla qui mène la junte militaire. Il imagine un plan systématique d'incarcération puis d'élimination des opposants de gauche. Leurs bébés, nés en prison, sont épargnés et réintégrés dans des familles de militaires ou proches du pouvoir sous une identité falsifiée. En 1983, un groupe de femmes s'organise pour partir à la recherche de leurs petits-enfants. Ce sont les grands-mères de la place de Mai. Grâce à un travail d'enquête énorme, aux témoignages puis aux tests ADN, 119 bébés parmi les 500 ont recouvré leur véritable identité et leur famille biologique. Après ce choc presque schizophrénique, ils apprennent à se reconstruire et à renouer avec leurs racines.
Mon nom est Pedro Sandoval. Je suis le 84e bébé volé. Et jusqu'en 2006, je m'appelais Alejandro Adrián Rey. La ressemblance entre mes parents d'adoption et mes parents biologiques est fondamentale. Ils se ressemblent beaucoup physiquement. On dirait qu'ils sont de la même famille. Quand on a découvert l'existence d'un plan systématique concernant la récupération des bébés volés, l'exemple de ma ressemblance entre les parents biologiques et d'adoption en était la démonstration frappante. Beaucoup d'entre nous n'ont pas récupéré le corps de leurs parents pour pouvoir se recueillir sur une tombe et penser un peu à eux en étant proches d'eux.
Je m'appelle Manuel González Granada et jusqu'en 1995, je m'appelais Claudio Novoa. La famille qui m'a adopté l'a fait de bonne foi, contrairement à la justice qui a fait ce que la dictature imposait. Si les militaires ne pouvaient pas nous garder, il n'était pas non plus question de nous rendre à nos familles biologiques pour que nous ne soyons pas élevés comme nos parents. Le juge pour enfants est intervenu et au lieu de rechercher ma famille biologique, il a modifié mon nom et m'a donné à l'adoption par l'intermédiaire d'un juge pour enfants d'une autre ville, ce qui leur permettait de changer mon identité. Quand à 19 ans, j'ai su quel était mon véritable nom, il est entré directement dans ma tête. Mais ce n'était pas facile pour moi de l'utiliser au quotidien, ni pour moi, ni pour mes amis qui avaient l'habitude de m'appeler Claudio. Du coup, il devait m'appeler par mon véritable nom, Manuel. Cela m'a pris des années pour intégrer ce nom et sentir que c'était comme cela que je devais m'appeler. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je n'aime pas que l'on m'appelle Claudio, ça me gêne. Mon vrai nom, c'est Manuel, et j'y suis attaché. En permanence, je ne peux pas m'arrêter de penser que tout cela n'aurait jamais dû exister. C'est comme si tu avais un passé dont tu ne sais pas trop quoi faire. D'un autre côté, ces histoires sont si intenses, si fortes, qu'elles te renvoient à un passé qui est celui de ta maman et de ton papa. C'est comme un saut dans le temps, une parenthèse dans laquelle tu as été toi, mais qui n'a rien à voir avec le passé ni avec le futur. Alors que faire de tout ça? C'est très difficile.
Avoir mes papiers d'identité, cela a été un profond soulagement. Ça a été la première fois que je me suis senti apaisé, car quand je me présentais, je n'avais pas besoin d'expliquer qui j'étais. Une carte d'identité, pour la plupart des gens, c'est un papier de plus. Mais pour nous, les enfants qui ont recouvré leur identité, une carte d'identité, ça représente tout. Ça représente l'histoire de mes parents et la mienne.
Alejandro,
c'est le nom que m'ont donné mes parents d'appropriation. Et c'est comme ça que tout le monde m'a appelé pendant 26 ans. Et justement, quand j'ai eu mes nouveaux papiers d'identité, j'ai mis Alejandro Pedro Sandoval. L'idée était aussi de mettre les deux noms de famille, celui de mon père et de ma mère. Et puis, en réfléchissant, j'ai choisi de porter seulement le nom de mon père.
Nous sommes devant le centre de détention clandestin Automobile Orléti. C'est là qu'ils nous ont séquestrés avec mes parents. J'y suis restée au moins 3 ou 4 jours. C'est ici que mon père d'appropriation est venu me chercher. Mes parents biologiques sont restés ici jusqu'à ce qu'ils soient transférés en avion vers l'Uruguay. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont disparu. Le bruit du train qu'on entend là est vraiment symbolique. Parce que les détenus qui ont survécu parlent tous de ce bruit de train qu'ils entendaient depuis l'intérieur. C'était un moyen d'identifier le centre dans lequel ils étaient détenus. Ceux qui étaient détenus avec mes parents ont presque tous disparu. À part cette femme qui a témoigné, tous les autres ont disparu. Pour moi, c'est très important de revenir ici, parce que d'une certaine manière, c'est un moyen de me sentir proche de mes parents, dans le dernier lieu qu'on a partagé ensemble. Même si les circonstances étaient très dures, c'est quand même le dernier lieu où on a été ensemble. Ce lieu est tellement horrible que je ne viens pas souvent. Ça me déprime. Le détail de ce qui s'est passé ici, je ne veux pas le savoir.
Mon histoire a été largement diffusée. Beaucoup de gens qui me connaissaient ont vu à la télévision ce qui m'arrivait. Tout le monde sait ce qui m'est arrivé.
Manuel fait partie du bureau de l'Association des grands-mères. C'est le premier petit-fils à accepter cette responsabilité. On prépare la transition avec la nouvelle génération pour être sûr que notre lutte continuera jusqu'à la récupération du dernier de nos petits-enfants.
La nécessité de les accompagner dans la lutte, pour mon cas personnel, tient dans le fait que je ne pourrai jamais faire autant pour elles qu'elles en ont fait pour moi. Ce serait vraiment égoïste de ma part, moi qui connais mon identité, de ne rien faire pour que d'autres retrouvent la leur et qu'ils retrouvent leur vraie famille. La relation avec les grands-mères est très spéciale, parce que dans cette histoire si complexe et si étrange, j'ai l'impression que c'est une partie de ma famille. Ainsi, j'ai une multitude de grands-mères. Je suis ton petit-fils favori, non?
Moi, je ne mange jamais.
Regarde, on a enlevé ma photo. C'est mes grands-mères. Et je me sens comme leur petit-fils. Pour moi, c'est quelque chose de magique. C'est une manière de vaincre l'horreur qu'on a vécue. Ça m'emplit de joie d'être avec elle. Mais quand vas-tu grandir? Qu'est-ce que c'est que ça?
Un crayon? C'est quoi le problème?
Grandis enfin, deviens adulte.
Celles qui n'ont pas encore retrouvé leurs petits-enfants nous considèrent un peu comme les leurs, jusqu'à ce qu'apparaissent leurs petits-fils ou leurs petites-filles biologiques. On fonctionne comme ça avec des grands-mères et leurs petits-fils. C'est une relation très belle et très différente, de ce qu'on avait prévu de nous faire vivre. On n'aurait jamais dû se rencontrer. Je disais que sur les photos qu'on a de nos parents, le peu qu'on a, ils sont plus jeunes que nous. J'ai déjà 10 ans de plus que mon père. Je fais tout ce que je peux, ou plutôt tout ce dont les grands-mères ont besoin pour retrouver les enfants qui manquent. Ici, c'est le meilleur lieu pour participer à la lutte, pour nous, la nouvelle génération.
Aujourd'hui, on inaugure un QG péroniste. C'est un mouvement pour lequel je milite. Ce soir, il va y avoir des militants, on va passer des vidéos sur le péronisme. Un aspect du militantisme, c'est ça, c'est d'accompagner les militants de différentes municipalités dans tout le pays. Nous, comme les grands-mères, on est devenus des emblèmes de la société. Mes parents, avant qu'ils disparaissent, travaillaient et soutenaient les militants. Je poursuis en quelque sorte leur chemin. Et si je dois me sentir fier de quelque chose, c'est de cela. Beaucoup ici sont des anciens compagnons de lutte de mes parents. De façon directe ou indirecte, ils ont aidé les grands-mères à nous retrouver. Ce qu'ils me racontent, c'est un moyen pour moi de reconstruire l'histoire de ma maman et de mon papa. C'est très important pour moi, parce que cette histoire, mes parents ne peuvent plus me la raconter.
C'est une grande joie de savoir qu'ils ont récupéré leur identité et qu'en même temps, ils ont envie de suivre les pas de leurs parents. C'est une émotion pour nous assez inespérée. Dans les gènes ou dans le sang, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont militants. Ils ne se contentent pas d'avoir récupéré leur identité, mais ils travaillent pour que d'autres, eux aussi, comprennent l'importance de retrouver leur identité, et ce n'est pas facile.
Je crois que tous les enfants récupérés sont très différents. Certains poursuivent le militantisme de leurs parents parce qu'ils pensent que c'est le chemin à suivre. D'autres restent plus à l'écart de la vie politique. Dans un certain sens, tout le monde passe par les mêmes phases dans la construction de notre identité. Moi, je n'ai pas le profil enquêtrice de ma grand-mère. Elle a passé sa vie entière à nous chercher, mon père, ma mère et moi. En ce qui me concerne, en tout cas jusqu'à maintenant, je n'ai pas dédié ma vie à la recherche. Mais j'essaye de faire mon maximum pour améliorer les recherches. Pour le moment, voilà ce que je peux faire.
Récupérer son identité, ce n'est pas quelque chose que tu réalises le jour même. C'est le début d'un processus qui ne se termine jamais. Tous les jours, je pense que je suis Manuel. Si je ne savais pas que j'étais Manuel, je ne serais pas là. Tout ce que je fais est lié au fait que je sais qui je suis maintenant, parce que je peux choisir ce que je fais de ma vie et de mon histoire.
La vie, en quelque sorte, m'a laissé sans certitude. Dans la vie, tout ce que je prenais pour des vérités absolues n'en était pas. Je me suis rendu compte après que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Mon nom, ma date de naissance, ma famille, ma relation avec cette histoire, tout ce que je considérais comme blanc ou noir a changé, finalement. Ce que je peux dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais ressenti de haine envers ma famille d'adoption. Et peut-être que je n'en ressentirai jamais, peut-être que si. C'est un processus qui ne se termine jamais, donc je ne sais pas ce qui va se passer.
À travers la reconstruction de ces enfants volés, c'est le sort de tout un pays qui se joue. Depuis 2003, les procès des responsables de la dictature ont commencé. Les incarcérations se sont succédées, mais l'Argentine reste en état de choc. Tout le monde connaît maintenant l'histoire des bébés volés, mais le sujet reste très sensible car chaque famille connaît quelqu'un connecté à cette affaire. Grâce à leurs actions aujourd'hui, Mariana, Pedro, Manuel œuvrent pour une réconciliation de tous les Argentins. Ainsi, la reconstruction de leur identité est intimement liée à celle de l'Argentine elle-même. Le pays aura besoin de temps pour comprendre et accepter son lourd passé et construire un avenir serein.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas. Los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar. A los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.